Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, pour ce dimanche dans l'octave de l'Ascension, la Sainte Église, par l'évangile d'aujourd'hui de Saint Jean, nous annonce l'arrivée du Paraclet, la fête de la Pentecôte. Vous savez que la fête de la Pentecôte, avec la fête de Pâques, sont les deux grands sommets de toute la vie liturgique, au même niveau. C'est la tradition dans l'Église, en cette semaine, ces 8 jours, ces 9 jours avant la fête de la Pentecôte, justement, de préparer un petit peu les âmes à l'arrivée du Paraclet. C'est ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Lorsque le Paraclet que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père sera venu et rendra témoignage de moi. Et notez comment notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de ce témoignage. Qu'est-ce qu'il annonce? Mais il n'annonce pas des jours particulièrement heureux. Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur? Ceci il y a 2000 ans. Ils vous chasseront des synagogues. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre hommage à Dieu. Ils vous traiteront de la sorte parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut donc utiliser ce paraclet, la troisième personne de la Sainte Trinité, justement pour avoir la force de continuer malgré les persécutions. Malgré les difficultés, malgré les tentations, malgré les désolations, malgré les maladies, malgré toutes les persécutions dont nous serons l'objet, elles sont annoncées par notre Seigneur. Mais le bon Dieu nous dit, attention, je vous donnerai aussi, avec ces persécutions que je permettrai contre vous, je vous donnerai la force de lutter contre ces tentations. Les pères de l'Église ont une belle image que vous connaissez, qui est très connue, c'est l'image du bateau, le bateau à voile, à l'époque, c'est tout ce qu'ils connaissaient. Le bateau à voile qui représente notre âme, notre coque de noix en quelque sorte, spirituelle, sur lequel nous devons traverser l'enfer de ce monde. Imaginez un petit bateau, une petite coque de noix qui doit traverser un énorme océan avec des tempêtes, des récifs, des courants, des pirates, que d'ennemis autour de nous. Eh bien, cette coque de noix doit traverser, le bon Dieu a promis qu'il nous donnerait les grâces. Vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Et les pères de l'Église ont des pages magnifiques où ils comparent justement notre âme à un bateau à voile, avec trois mâts, le mât de la foi, de l'espérance, de la charité, et puis les 7 voiles qui sont attachées sur ces mâts, les 7 dons du Saint-Esprit. Donc sur le mât central, le mât le plus haut, le mât le plus fort, c'est le mât de la charité évidemment, et on attache la voile de la sagesse, la voile de l'intelligence. Et puisque le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, sur ce même mât, il y a aussi la voile de la crainte de Dieu. Sur le mât de la foi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la force et le conseil. Pas se battre n'importe comment, c'est savoir s'asseoir avant de se battre. Donc il faut le conseil avec la force. Et sur le mât de l'espérance, c'est la piété et la science pour prier avec l'esprit du bon Dieu. Alors, je voudrais, en préparant ce sermon, j'ai toute une série d'idées qui, j'espère, viennent du bon Dieu, hein, pour nous aider à méditer sur cette image qui est très belle. Même dans les temps d'aujourd'hui, dans certaines zones dangereuses, le capitaine du navire, même dans les gros navires, même avec tous les moyens électroniques modernes, dans certaines zones dangereuses, certaines zones où il y a beaucoup, beaucoup d'activités maritimes, le pilote, quand il arrive dans ces zones, doit s'arrêter. On arrête le bateau, on fait monter un pilote local qui connaît très bien la zone, un copilote. Et le capitaine du navire, bien qu'il soit le maître à bord, il s'éloigne, il fait monter à bord de son bateau, de son navire, le pilote du port, et c'est le pilote local qui connaît bien les dangers locaux qui va prendre le commandement du navire pour amener le navire à quai. Et dans certaines zones, il est absolument interdit, je ne connais pas grand-chose en navigation, il est interdit pour le pilote, le capitaine du navire, de pénétrer dans des zones portuaires très dangereuses avec beaucoup, beaucoup d'activités sans avoir d'abord à bord le capitaine. Et si le capitaine, pour le capitaine de remplacement, en quelque sorte, le copilote, et si pour une raison ou une autre, le capitaine est en retard, eh bien on attend. Ils n'ont pas le droit de pénétrer sans le capitaine. Alors, je me suis dit, mais c'est exactement notre histoire. Nous, en zone dangereuse, on y est souvent. Zone de tentation, zone de désolation, zone de persécution. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le navire et on attend que le copilote arrive. Et on lui demande de venir parce que le copilote, il y en a deux en fait. Il y a deux copilotes. Ils vont monter sur notre coque de noix à condition qu'on arrête le navire et qu'on les fasse monter. Il faut leur demander. Le copilote, c'est celui qui a dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Et le copilote qui va prendre les commandes du navire, il ne vient pas tout seul. Notre Seigneur Jésus-Christ va monter à bord à condition qu'on le fasse monter. Et il vient avec sa mère. Et ils montent tous les deux dans la cabine, la passerelle de commandement, et ils attendent. Et puis il faut qu'on se retire un petit peu et dire au bon Dieu, écoutez, est-ce que ça vous gênerait de prendre un peu le commandement du navire? Parce que là, il y a une zone de turbulence, une zone dangereuse, une zone de courant. J'ai un peu peur de faire des bêtises. Est-ce que vous pourriez prendre, s'il vous plaît, le commandement de mon navire? Et mon Dieu va le faire. Et là, vous êtes en milieu. À la droite, il y a notre Seigneur Jésus-Christ. À gauche, il y a la Sainte Vierge Marie. Et c'est eux qui vont prendre le commandement. Il faut savoir faire ça. Dans les moments donc difficiles, les moments de grand danger spirituel pour notre âme, il faut avoir le courage et l'humilité parce qu'il en faut. Dire là, c'est trop dangereux. Il faut que je demande à quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, mon Créateur, mon Rédempteur, de venir prendre le contrôle de la machine. Et il va venir. Et c'est, je pense, quelque chose d'important. Avoir suffisamment d'humilité pour savoir demander de l'aide. L'orgueilleux, au contraire, se dit, je suis suffisamment doué pour amener le bateau à quai, traverser les zones dangereuses par moi-même tout seul. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il va mettre le bateau sur les récifs, il va tout perdre. Deuxième chose qui m'a frappé dans la méditation de cette belle image des pères de l'Église, c'est que plus un bateau à voile est important, plus les mâts sont hauts, à cause des forces terribles que le vent va exercer sur les voiles pour faire avancer le bateau, qui peut peser plusieurs tonnes, des dizaines de milliers de tonnes, eh bien, si le bateau à voile, pour pouvoir avancer, à cause de son poids, a besoin d'une contre-force. Il a besoin de quelque chose qui va maintenir le bateau en équilibre sur l'eau. Et même si le vent est très violent en cas de tempête, qui va tenter de pousser le bateau sur la droite ou vers la gauche, le bateau va commencer à tanguer, il faut un contrepoids qui remette le bateau sur la bonne ligne et qui maintienne le bateau en équilibre. Ce contrepoids, c'est quoi? C'est la quille. Et encore une fois, je n'y connais rien en loi maritime, mais il me semble que la quille doit être proportionnée à la taille du bateau. Si on a un bateau avec des mâts extrêmement hauts, il y a trois mâts, foi, espérance, charité, qui sont lourds. Eh bien, il faut une quille qui soit proportionnée. Plus le bateau est gros, plus la quille doit être profonde. Et non seulement elle est profonde pour maintenir le bateau dans la bonne ligne et les rééquilibrer, mais en plus cette quille est lestée. Il y a un poids dans la quille pour que justement il y ait un couple, si vous voulez, qui se forme. Et lorsque le vent souffle d'un côté, la quille va ramener le bateau pour le maintenir dans la bonne ligne. Alors c'est quoi cette quille? Qu'est-ce que représente cette quille? Cette quille représente la chose qu'on garde sur le navire, qui est la plus précieuse. C'est pour ça qu'on la met dans la quille, pour qu'elle soit protégée. On ne la voit pas. Okay, on ne la voit pas sur un bateau. Mais cette quille est capitale, il n'y a pas de quille. Quand un gros voilier perd sa quille, il ne peut plus rien faire. Mais cette quille, c'est l'état de grâce. L'état de grâce qui va ramener le bateau en équilibre dans les moments difficiles, moments de tentation, des bons en profitent, évidemment, ils poussent le bateau pour essayer de le renverser. Mais si la quille est là, le bateau se redresse et reste dans l'axe. Mais si l'état de grâce disparaît, c'est pour ça que le démon, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de passer à l'abordage, c'est le pirate. Il passe à l'abordage du navire et qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est à l'abordage, qu'il a mis le pied sur le navire? Première chose qu'il va faire, c'est d'enlever le ballast, couper la quille. Et si la quille disparaît, parce que l'état de grâce a disparu, parce qu'il a réussi à me faire tomber dans l'état de péché mortel, le navire est incapable de réagir au coup de vent, et du coup, ben, il va se retourner. Un bateau retourné, pas loin. En plus, on meurt tous noyés. Et je pense que c'est important de réaliser toutes ces choses qui sont importantes, qui sont capitales. Un autre détail que j'ai pensé en préparant ce serment, c'est le fait que ces voiles, il faut qu'elles soient déployées. On voit souvent des photos de bateaux anciens, ces grands gréements des siècles derniers, les voiles sont roulées autour des différents travées de bois qui portent les voiles. Mais si la voile est roulée, ça ne sert pas grand-chose. Donc qu'est-ce que nous demande le bon Dieu? Le bon Dieu nous demande à ce que nos voiles soient déroulées. Les voiles, c'est quoi? C'est ce qui va recevoir le souffle de l'Esprit. C'est le bon Dieu qui fait avancer le bateau, c'est pas nous. Mais nous, nous sommes des instruments. Et si nous n'avons pas nos voiles déroulées, comment voulez-vous que le Saint-Esprit marche? Comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse influer sur le cours de notre vie? Il demande à ce que nous ayons une participation à ce travail de la grâce. C'est la grâce qui travaille. La grâce est toute puissante. Mais la grâce ne détruit pas la volonté propre, notre volonté personnelle. Et donc, la grâce, c'est le vent qui souffle. La volonté propre, ce sont les voiles. Et les voiles, c'est le navire. Et donc, il faut que les sept voiles du bateau soient déployées pour que, en fonction des difficultés, le bon Dieu, par son souffle, le souffle du Paraclet, puisse agir sur certaines voiles. Il ne va pas forcément souffler sur toutes les voiles en même temps. À un moment d'hésitation, il va surtout souffler sur la voile de la sagesse, la voile de l'intelligence, la voile de la crainte de Dieu. Dans les moments de grandes tempêtes, il va surtout souffler sur la voile de la force, évidemment. Hein, sur la voile du conseil. Dans les moments, au contraire, où on se décourage, il va souffler plus, davantage sur la voile de la piété. La voile de la piété et la science de Dieu. Donc, en fonction des besoins, bon Dieu sait très bien ce qu'il fait, très bien ce qui se passe, il va souffler sur certaines voiles. Donc, il faut que les voiles soient toujours déployées pour que le bon Dieu puisse travailler sur ces voiles. Donc, il ne faut pas s'affoler si certaines voiles ne sont pas utilisées, parce que le bon Dieu, encore une fois, sait bien mieux que nous ce dont nous avons besoin, il va utiliser certaines voiles contre d'autres voiles. Une autre image plus moderne que j'ai pensée en préparant ce sermon, elle a beaucoup frappé cette image. Celle-là, elle ne vient pas des pères de l'Église, hein, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. C'est l'idée du brise-glace. Qu'est-ce que c'est qu'un brise-glace? Le bateau spécialement aménagé pour la navigation dans les zones arctiques. Donc là, il y a des banquises. Un gros brise-glace, son rôle, c'est de maintenir les canaux de circulation des bateaux, dans la période des endroits où il y a beaucoup de glace, ouverts. Donc il passe constamment pour briser la banquise. Et il paraît que les brise-glaces modernes, gros brise-glace à propulsion nucléaire sont capables de briser des banquises de plus d'un mètre. Donc ils ont une proue très renforcée, très lourde, qui va se poser sur la glace et casser la glace. Mais une chose qui m'a frappé sur les brise-glaces, j'ai vu une fois un documentaire là-dessus, c'est qu'un brise-glace, pour pouvoir fonctionner, il faut que vous soyez toujours en mouvement. Si brise-glace se tourne, il peut être très froide, s'arrête de bouger. La glace se met autour du navire, ferme une espèce de gant qui va bloquer le navire ne peut plus rien faire. Si un brise-glace s'arrête au milieu d'un blizzard, une tempête de glace et de neige en période arctique, par des froids de moins 30 ou moins 40 degrés, s'il a le malheur de s'arrêter parce qu'il y a un avarie de machine, on ne peut plus rien faire. La gangue de glace va se mettre autour du navire, l'empêcher de bouger, et du coup, ben, il faut évacuer les marins par hélicoptère, et il n'y a plus qu'à attendre le dégel au début du printemps pour que le bateau soit dégagé de sa gangue de glace, et puisse de nouveau circuler. Eh bien, ça me fait penser que dans la vie spirituelle, c'est un peu la même chose. C'est ce que disaient les pères. Dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas, il recule. Donc, cela nous explique, c'est un peu l'explication, l'image du brise-glace, c'est que dans la vie spirituelle, il y a un combat constant. Malheur à celui qui s'arrête. Malheur à celui qui se dit, c'est fini, maintenant je suis en paix, j'arrête de me battre. Le combat spirituel est un combat indispensable pour la victoire. Et ce combat spirituel, quand est-ce qu'il s'arrêtera? Souvent, les gens disent, Monsieur l'abbé, qu'est-ce que c'est compliqué d'être catholique aujourd'hui, il faut se battre tout le temps. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ce combat? Quand est-ce qu'on peut se reposer un peu? Je réponds toujours, vous pourrez vous reposer quand vous serez au paradis. Voilà. Là, c'est le lieu de repos, plus besoin de se battre, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'écueils, il n'y a plus de courants, il n'y a plus de pirates, on est en paix. Mais tant qu'on n'y est pas, on n'est pas comme ça. Donc il y a un combat constant, ce qu'on appelle le combat spirituel. Combat contre qui? Ben, contre le démon, évidemment. Contre les concupiscences, la chair, concupiscence de l'orgueil, concupiscence des yeux, et contre notre volonté propre. On retourne sur la case départ que j'expliquais au début. Il faut accepter de l'aide du copilote. Mais si je ne veux pas faire monter le copilote à bord, je vais me retrouver avec d'énormes difficultés très très vite. Dans ce combat spirituel, on peut se trouver dans deux situations différentes, qui sont contradictoires. Soit c'est calme plat, il n'y a plus de vent, il faut arrêter, on ne peut plus avancer parce qu'il n'y a plus de vent. Soit c'est la tempête. Et on peut comparer un bateau dans la tempête qui a sa quille, donc qui est en état de grâce, notre âme dans la tempête, un bouchon. Vous essayez de faire couler un bouchon de champagne? Mettez un bouchon de champagne sur l'eau de mer en pleine tempête avec des creux de vagues énormes, des vents épouvantables. Impossible de faire couler le bouchon. Même si une vague énorme avec des milliers de mètres cubes d'eau lui tombe dessus, il va disparaître un peu dans l'écume. Et puis 30 secondes plus tard, pop, on voit le bouchon qui réapparaît à la surface. Impossible de faire couler un bouchon. Ça, c'est l'exemple d'une personne qui vit en état de grâce. Ce petit bouchon qui semble tout petit par rapport à la force des vagues est incapable de couler. Il ne peut pas couler parce que dans la barque, il y a quelqu'un qui est là, qui peut dormir. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous la parabole? Il n'y a pas une parabole, l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans la barque et il y a la tempête, les apôtres paniquent complètement parce que l'eau passe par-dessus le bord. Ils ont l'impression qu'ils vont couler. Notre Seigneur est dans la barque et dort. Eh bien, vérifions que notre Seigneur est dans notre barque. Hein. Vérifions que notre Seigneur Jésus-Christ est là, il est dans la barque, et tant qu'il est dans la barque avec moi, j'ai rien à craindre, même s'il dort. Alors le bouchon va être chahuté par les vagues, il va monter, il va descendre, il va être poussé par le vent, il ne peut pas couler. Le deuxième danger, le découragement, c'est le danger du calme plat. Peu de calme plat, c'est certainement une des tentations les plus graves pour le catholique. Calme plat, on a l'impression que le bon Dieu nous a abandonnés. Donc c'est l'assédie spirituelle, le découragement, le dégoût des choses spirituelles. Ça arrive souvent pour les catholiques, pour chacun d'entre nous. Le dégoût des choses spirituelles. Il y a des jours où on a envie de prier. C'est facile de prier quand on a envie de prier. Tout va bien, il fait beau, les petits oiseaux chantent, et je suis de bonne humeur, tout va très bien, tout fonctionne bien dans mon corps. Ah, alors là, on peut passer des heures devant le Saint-Sacrement, tout va bien. Puis il y a des jours, au contraire, les oiseaux ne chantent plus, il fait froid, j'ai mal partout, j'ai pas envie de prier. Quelles sont les prières qui sont les plus méritoires pour nous? Les prières que nous faisons quand tout va bien ou les prières que nous faisons quand tout va mal? Et quand on a plus besoin de prier? On a besoin de prier justement quand les oiseaux ne chantent plus, qu'il fait froid, que j'ai mal partout. Donc, le danger du calme plat est peut-être plus grave que le danger de la tempête. Calme plat, c'est ça, c'est une espèce de découragement, l'assédie spirituelle, la fatigue, le dégoût spirituel. Malheur à celui qui ne réagit pas dans le dégoût spirituel. Dans le dégoût spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? Répéter lentement les actes de foi, d'espérance et de charité. Répétez en boucle, si vous voulez, ces petites prières, on appelle ça des oraisons jaculatoires, donc des petites prières très courtes qu'il faut répéter, que les démons craignent par-dessus tout. Vous êtes tenté de découragement, tenté par le démon d'une façon ou d'une autre, répétez en boucle. Ô Marie conçue sans péché, priez pour moi qui recours à vous. Cœur sacré de Jésus, broyé à cause de nos péchés, ayez pitié de moi. Et vous répétez ça? Et en répétant ces prières, même en boucle, pendant plusieurs minutes, s'il faut, eh bien, vous allez augmenter les mérites. Et vous allez vexer le démon, parce que le démon, son travail, ce n'est pas d'augmenter les mérites des gens, c'est au contraire les précipiter en enfer. Donc, il voit que plus il vous tente, plus vous continuez de prier, il s'en va, parce qu'il ne supporte pas l'humiliation. Et il s'en va. Et bien, chers frères, comme toutes ces choses sont importantes. Et en résumé, si vous voulez, qu'est-ce que nous disent les pères? Les pères nous disent que si j'ai toutes ces garanties autour de moi, ces garanties spirituelles, si le bateau reste avec les deux copilotes, si j'ai les voiles qui sont bien étendues pour prendre le vent, si j'ai la quille en bon état, etc. Eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser ces dons du Saint-Esprit pour connaître Dieu, comprendre Dieu autant que faire se peut, afin de l'aimer davantage. Rappelez-vous Sainte Thérèse d'Avila. Mon doux Sauveur n'est pas aimé parce que mon doux Sauveur n'est pas connu. Donc, plus on connaît notre Seigneur Jésus-Christ, plus on l'aime. Plus on connaît notre Seigneur Jésus-Christ, plus on a envie de le comprendre. Et plus on comprend notre Seigneur Jésus-Christ, même si on ne peut pas le comprendre parfaitement ici-bas, ce n'est pas possible. Plus on comprend notre Seigneur Jésus-Christ, plus on l'aime. Et que les hommes, c'est souvent l'inverse. Les hommes, en général, souvent, pas tout le temps, mais plus on les connaît, plus on découvre leurs défauts, et plus on a tendance à les repousser au loin. Et Dieu, c'est le contraire. Que Dieu est parfait, il n'y a pas de défaut. Donc plus on connaît notre Seigneur Jésus-Christ, plus on a le désir de l'aimer, le désir de le posséder, le désir de garder en nous. Et c'est pas pour rien, justement, que après dimanche prochain, c'est donc la fête de la Pentecôte, la fête de l'arrivée du Saint-Esprit. Et tout de suite après, justement, pour bien nous faire comprendre ce que provoque le Saint-Esprit dans nos âmes, qu'est-ce qu'on a? On a la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, le Sacré-Cœur, ces fêtes magnifiques qui nous aident à comprendre ce qui se passe dans notre âme une fois que le Saint-Esprit est là. Une fois que le Saint-Esprit est là, alors, bon, on était en tempête, on était en période de calme plat, on était tous un peu découragés, l'équipage du navire est un peu découragé, même très découragé. Le bon Dieu arrive dans le navire avec le Saint-Esprit, alors ça redonne du vent sur les voiles, et on est reparti. Donc, ne pas se décourager. Souvent, j'entends cette remarque très fréquemment, de plus en plus fréquemment, en disant, mais monsieur l'abbé, on est tellement peu nombreux. Mais monsieur l'abbé à Rome, c'est de pire en pire. Tous les jours, tous les jours maintenant, pratiquement, il y a une nouvelle hérésie de Bergoglio. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on continue le cap. Parce que Bergoglio dit ses bêtises et ses hérésies à longueur de journée. Mais le bon Dieu est toujours le patron. Hein. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours là. Il souffle toujours dans les voiles. Quand il veut. De temps en temps, il a décidé de nous laisser en calme plat. C'est pénible, mais c'est ce qu'il fait. Donc il ne faut pas se décourager. Et simplement vérifier que notre Seigneur Jésus-Christ est là. N'oubliez pas que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est sur la passerelle, il y a sa mère qui est là. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. On ne peut pas séparer le Fils de la mère. Si le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ est à côté de moi, le cœur immaculé de Marie sera là. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous faire comprendre toutes ces choses. S'il y en a une qui avait parfaitement compris justement l'amour de son divin Fils, qui avait non seulement une connaissance de Dieu, mais plus qu'une connaissance de Dieu, qui avait aussi une compréhension du bon Dieu bien plus, largement supérieure à la nôtre, bien qu'elle n'était pas parfaite, attention, même la Très Sainte Vierge Marie ne pouvait pas comprendre la divinité complètement. Seul Dieu peut se comprendre lui-même. Nous, nous pouvons comprendre imparfaitement. La Très Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est l'Immaculée Conception, parce qu'elle est la Mère de Dieu, devait comprendre son divin Fils infiniment plus que nous, même s'il n'a pas pu tout comprendre. Et on le voit très bien dans l'Évangile. Rappelez-vous Saint Luc, justement après que notre Seigneur Jésus-Christ, à 12 ans, soit resté autant sans prévenir ses parents. Ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Et cette petite phrase, Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Elle n'avait pas tout compris, mais elle avait cette confiance extraordinaire en son divin Fils. Et même au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que tous les apôtres ont tout abandonné, sont tous sauvés comme des lapins, Sainte Vierge Marie est au pied de la croix, debout. Elle n'est pas prostrée en pleurs, elle est debout. Elle se tient au pied de la croix, forte comme une armée rangée en bataille. Et il n'y a rien que le démon ne craigne plus que la Sainte Vierge. Surtout si elle a son Seigneur avec elle, parce qu'encore une fois, on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Donc gardons la Très Sainte Vierge Marie en nous, pendant ce mois de mai, gardez bien votre chapelet tous les jours. Et vous aurez à ce moment-là cette force extraordinaire qui fait que même dans les tempêtes les plus terribles, les ouragans les plus épouvantables, ou dans les périodes de grande désolation, de grands malheurs pour nous, le bon Dieu nous donnera les grâces par l'intermédiaire de sa mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.